Cet après-midi, il s'agit de répondre à la souffrance. Réponse à la souffrance, la réponse définitive est donnée par le Dieu créateur. Et on verra à quel point le fait que Dieu soit le créateur est la réponse à la question de la souffrance. Notre première pensée, c'est de dire, mais ça n'a strictement rien à voir avec ma souffrance, le fait de savoir qui a créé le monde et comment il a créé. Parler de plantes, d'animaux et tout ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir pourquoi je souffre. Dieu ne répond pas à la question. Mais la réponse qu'il donne est la réponse à la question. Quand Dieu parle à la fin du livre, il parle pendant 4 chapitres, il n'apporte donc pas cette réponse sur laquelle on avait débattu pendant des jours et des heures avec Job et ses 3 amis. À la fin du livre, Dieu dit, et on le répète souvent, il dit, « Mon serviteur a parlé de moi avec droiture. » C'est tout ce qui est sur l'épreuve de Job. Il n'explique ni pourquoi il a souffert, il n'explique pas à Job, enfin, que Satan avait fait un pari avec lui et lui, il était le sujet de l'expérience. Il n'en explique rien. Je suppose que quand le livre a été achevé, Job connaissait le pourquoi du comment. Mais à l'instant même où il souffrait, il ne savait pas pourquoi. Mais il y a quelqu'un qui vient, on avait parlé de Job, de ses 3 amis, de leur argumentaire. Job donc est un être qui est fort sympathique au demeurant, c'est un ami de longue date. Mais là, il est accablé, il a tout perdu, il a une maladie défigurante, dégoûtante, repoussante, il est en grande souffrance. C'est évident, s'il a tant de souffrance, il est évident que Dieu a décidé enfin de juger cet homme qui faisait l'hypocrite et qui avait un péché secret. Péché secret, évidemment, puisque publiquement, sa vie était totalement intègre. Donc, ça devait être un péché secret. Et plus tôt Job l'avouera et en demandera pardon et s'en repentira, plus vite il sera guéri. Voilà la thèse de ses 3 amis. Mais ses 3 amis sont très contrariés de ce que Job maintienne qu'il est innocent. Ça les gêne. Alors, à tous ces débats et toutes ces discussions, assistait un homme beaucoup plus jeune que les 3 amis de Job. Donc Job, on peut penser que Job et ses amis avaient dans les 70 ans. Cet homme avait peut-être 35, 40 ans, peut-être un peu moins, mais au moins 30 ans. Sinon, il n'est pas crédible. Mais il est beaucoup plus jeune que les 4 autres hommes et il va intervenir dans la conversation. Et donc, il parle pendant 5 chapitres du Job 32 à 37. Il s'appelle Élihu. Donc, voilà. Voilà où est-ce que nous en sommes dans cette discussion. On est dans l'impasse. On n'arrive pas à faire céder Job. Job est innocent. Et tout le raisonnement est basé sur la thèse que Job est coupable. Comme on dit parfois dans les films policiers, il faut faire passer le type aux aveux. Hein? Et si vous voulez faire passer quelqu'un aux aveux qui n'a rien avoué, l'inspecteur est gêné, tout le monde est gêné et on essaie de trouver quelque chose et parfois il n'y a rien à trouver. Et puis on va chercher le vrai coupable à la fin. Satan donc va décrocher une dernière ruse pour essayer de séparer Job de sa foi en Dieu. Le but des amis, c'est de faire avouer à Job son péché secret qui n'existe pas. Le but de Satan, c'est de séparer Job de sa foi en Dieu. C'est ça l'enjeu en fait. Donc Élihu, il parle, bon, il parle très bien, c'est un jeune intellectuel, il est philosophe. On ne sait pas à quel point il était connu des quatre hommes plus âgés, mais il avait suivi tous les débats avec grand intérêt. Donc il fait un monologue de 6 chapitres et il parle par contre avec beaucoup d'enthousiasme et de fougue. Si lui était chargé de faire la conférence cet après-midi, il n'y a personne qui dormirait. C'était passionnant ce qu'il a dit. Alors Élihu dit beaucoup de choses très justes. Surtout sur la création. Il dit tellement de choses justes que la plupart des croyants, y compris moi-même, pendant très longtemps, je me disais, oui, ben, Élihu, il a peut-être moitié raison, les autres, ils avaient totalement tort, mais lui, il approche. il approche quand même du vrai sujet et sans doute il avait la clé. Donc, parce qu'il dit tellement de bonnes choses, mais il reste sur la même ligne que les trois autres amis. Il a exactement la même pensée qu'eux. Et surtout, pour ne pas trop accabler tous ces hommes, il faut dire qu'aucun de ces hommes ne pouvait connaître la vraie souffrance de Job. Job ne savait pas pourquoi il souffrait, et aucun de ses amis n'avait la moindre idée de pourquoi il souffrait. Ils avaient leur théorie, mais ils n'en savaient vraiment rien. Et parler et philosopher quand on n'a aucun élément, ça peut être dangereux, hein, dire beaucoup de bêtises simplement parce qu'on ne sait pas et on pense savoir. Vous savez, la chose la plus terrible, des gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Quand on croit savoir et qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est dangereux. Parfois, nous sommes très forts de nos certitudes alors que nous ne savons rien du tout. Souvent, il vaut mieux dire « je ne sais pas comme Job l'a fait ». Job est le seul honnête, il dit « je ne sais pas pourquoi je souffre, je ne peux pas vous l'expliquer ». Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Et les gars disent « comme tu ne sais pas, nous on sait ». Voilà le problème qu'ils avaient. Et donc, on va dire « je sais » et on va aggraver notre cas et on va augmenter la souffrance de la personne que nous sommes censés consoler. Parce que Job dit à la fin à ses trois amis, vous êtes des consolateurs fâcheux. Vous êtes zéro pointé hein, en matière de consolation. Je sais bien que vous êtes venu pour me consoler, mais puisque vous avez ouvert votre bouche, ça n'était que des attaques. Je n'avais pas besoin de ça. Alors ce Élihu, il est animé de colère. Regardez chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Voilà, on est dans l'impasse. On ne peut plus parler, on a déjà tout dit plusieurs fois. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakiel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, regardez bien, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Donc, à mesure qu'il écoute la conversation, son sang monte de plusieurs degrés et là, il a le sang qui bout. Il est vraiment en colère. Alors, la colère n'est jamais bonne conseillère. Cet homme va parler à partir d'une quantité de colère qui s'est accumulée en lui. Il se dit, mais quand même, il faut arriver à dire à ce Job qu'il est coupable. Il ne faut pas le laisser dire qu'il est innocent, alors qu'il est coupable, manifestement, il est coupable. Et ses trois amis n'arrivent pas à le convaincre. Et ça me fâche. Et moi, je vais y arriver. Et c'est avec cette attitude-là qu'il commence à parler. Alors, il va parler et il va passer beaucoup de temps à faire l'éloge de lui-même et de ses conseils. C'est quand même c'est incroyable. Il va commencer pendant des phrases et des phrases. Et par exemple, verset 5, il s'enflamme de colère. Et il dit, je suis jeune, et verset 6, vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Et donc il dit, voilà votre verset 12, je vous ai donné toute mon attention, et voici aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Alors, il dit, je vais répondre à Job, il ne s'est pas adressé à moi, mais moi, je vais parler différemment de vous autres. Donc, il dit à ces trois plus âgés, vous avez totalement raté, vous allez voir, je vais y arriver, je vais prendre un autre angle d'attaque. Parce qu'il s'agit bien d'attaquer Job. Verset 15, voilà comment il parle de ses trois amis et de Job. Il dit, ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, qu'ils s'arrêtent et ne sachent que répliquer. À mon tour, je veux répondre. Je veux vous dire aussi ce que je pense. Et il dit, au-dedans de moi, verset 18, l'esprit me presse, au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je vais parler pour respirer. Il dit, moi je suis tellement énervé, il faut que je parle, ça va exploser si je ne parle pas. Je vais vous dire moi ce que je pense. C'est comme ça qu'il introduit ses pensées. Et puis dans chapitre versets 8 et 9, il dit des choses justes. Il dit par exemple, ce n'est pas l'âge qui apporte la sagesse, c'est l'esprit. C'est vrai, on est d'accord avec lui. On dit, ah c'est beau, au moins un gars qui parle bien. Et après il dit, écoutez donc mes pensées et je vous instruirai tous. Ah, cette deuxième phrase ne colle pas vraiment avec la première. Hein? Moi, je vais vous parler, c'est l'esprit qui donne la sagesse. Et maintenant, vous allez écouter, vous allez voir ce que je sais dire. Il dit, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. Verset chapitre 33, versets 3 et 4. C'est la vérité qu'exprimeront mes lèvres. Autant dire à tes amis là qu'ils sont tous des menteurs. Hein. Il dit, bon, enfin, par moi, vous allez enfin entendre la vérité. Il était temps. Hein. Et il dit, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qu'est-ce qu'il dit, Élihu? Il dit, je suis inspiré par Dieu pour parler. Contrairement à vous autres qui ont parlé jusque-là. Job, il parlait de quoi? Il parlait de sa souffrance, il parlait de son besoin de consolation, il parlait de son incompréhension, il parlait de son intégrité. Les trois amis, ils ont parlé de ce qu'ils ont vu, ils ont parlé de leur expérience, de leur éclairage. Et il lui dit, moi je vais parler inspiré par Dieu. Dès que quelqu'un vient vous dire, écoutez, j'ai quelque chose à te dire, et le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ceci, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il semble très sûr de lui-même. Alors vous avez tout un lot de passages en chapitre 32, en chapitre 33 et chapitre 34. Il est très sûr de lui-même. Juste un échantillon. Sois attentif, Job. Écoutez-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligent, prêtez l'oreille. Vous dites, oh là là, mais avec une telle introduction, il va sortir des perles. Ça va être l'éclairage de tout le monde. Enfin, on va y arriver avec ce jeune. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'élocution, enfin, l'introduction est extraordinaire, mais le contenu est assez anodin. Parce que finalement, il ne fait que reprendre la thèse de ses trois amis. Après avoir dit, vous allez voir ce que je vais vous dire, ça va changer de thèse, ses trois amis, ils ne sont arrivés à rien, je vois que l'autre, il demeure dans son intégrité, je vais prendre un autre angle, en fait, il prend le même angle. Et donc, il dit, Job, tu es coupable de faute, et dans ta souffrance, tu es même capable de parler contre Dieu. Tu as parlé contre Dieu, Job. Tu as parlé contre Dieu et tu es coupable de faute. Ça ne va pas. Nous savons que Job ne souffrait pas parce qu'il avait parlé contre Dieu. Nous savons que Job ne souffrait pas parce qu'il était coupable de certaines fautes secrètes. Nous savons, nous, qu'il a souffert parce que Satan lui a infligé la souffrance et que Dieu l'a permis. Il ne souffrait pour aucun des motifs qu'Élihu annonce. Mais Élihu ne craint pas. Et d'abord, il n'est pas favorable de dire « je ne sais pas ». Il dit « non, non, moi je sais pourquoi tu souffres, pour ces deux raisons ». Alors, d'abord, tu as fait des fautes, c'est pour ça que Dieu a frappé, et maintenant tu parles contre lui, mais crois-moi, il va encore continuer à te frapper plus. Et en fait, pour prouver son point, il va même aller jusqu'à peut-être inconsciemment déformer le témoignage et les supplications de Job. Par exemple, il dit dans un passage, Job dit, je suis sans péché. Mais regardez Job chapitre 7, verset 21. Job chapitre 7, verset 21. « Job dit à Dieu, « Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité ? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. » Job dit tout à fait volontiers, « Seigneur, pourquoi tu ne pardonnes pas mon péché et pourquoi n'oublies-tu pas mon iniquité ?» Ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Hein? Il pardonne et il oublie. Mais il demande à Dieu, « Pourquoi tu ne pardonnes pas mon péché ? Pourquoi n'oublies pas-tu mon iniquité ?» Donc Job avoue tout à fait qu'il a une nature pécheresse. Il est prêt à reconnaître son péché si quelqu'un peut le lui montrer. Par exemple, chapitre 6, verset 24, il dit « Instruisez-moi ». Job dit « Instruisez-moi et je me tirerai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. » Verset 25, « Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances ?» Il dit, mais dites-moi ce que j'ai fait de péché, dites-le-moi. Ça va me persuader, ma conscience va me dire, ils ont raison, et là je confesserai mon péché. Donc, il accuse Job d'avoir dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu et que ça ne sert à rien d'arrêter de pécher. Regardez ce que chapitre 34, verset 9. Job 34, verset 9. Alors, c'est Élihu qui dit, et il regarde Job et il parle aux autres amis, il dit, « Hé, il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Tu vois, c'est ce que t'as dit, Job. C'est pas bien. Mais il a raison. Si Job a dit ça, c'est pas bien. On est bien d'accord. Regardez chapitre 35, versets 2 et 3. Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Il parle à Job quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Il dit, Job dit, je ne suis pas la peine d'arrêter de pécher, ça ne sert à rien. Est-ce que Job avait dit ça? Je ne crois pas. Regardez ce que Job dit en chapitre 21, dans le verset 15. Job 21. Alors, verset 7, il faut aller au verset 7, chapitre 21, verset 7. Job parle, il dit, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. » Job est en train de leur dire, vous dites que je souffre parce que je suis un méchant et que tous les méchants souffrent. Il dit, attends, moi je connais plein de méchants qui ne souffrent pas. Comment ça se fait qu'ils ne souffrent pas si vous vous dites que tous les méchants souffrent? Non, vous n'êtes pas juste, ce n'est pas vrai. L'expérience nous montre que ce n'est pas vrai. Et il explique la prospérité des méchants. Et regarde les versets 14, il parle toujours de ces mêmes méchants. Et Job dit à ses amis, voyez, les méchants, ils disent pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Qui a dit, que sert-il de servir Dieu? C'est les méchants qui le disaient. Job, il dit, voilà ce qu'ils disent des méchants, c'est pas ce qu'il lui dit lui. Mais il lui dit, oui, mais il a dit, c'est inutile de servir Dieu. Donc, Job l'a bien dit, ces phrases, mais il les a dit de la part des méchants, pas de son point de vue personnel. Donc, il a peut-être oublié comment Job a tourné ça, ou il pense que Job parlait de lui-même, c'est pas la peine que je serve Dieu, c'est pas ce qu'a dit Job, il dit, les méchants disent cela. Et alors, mais si Job avait dit ça, il ne sert à rien de servir Dieu, c'est pas la peine, c'est vrai qu'il y a de quoi reprendre. Et donc, Job parle des méchants. Et il accuse Job à tort, et il montre par là, soit qu'il n'a pas été attentif à ce que Job a dit, soit qu'il n'est pas vraiment honnête dans son accusation. Il lui dit autre chose, dans le chapitre 33. Il lui dit, Dieu parle par des rêves et par des souffrances. Chapitre 33, versets 12 à 14. Alors, il dit d'abord, il dit verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Bon, il dit, voyez, quand on est dans le lit et on dort, Dieu nous parle par des songes pour nous instruire, nous détourner du mal et nous tourner vers le bien. Peut-être. Lui dit, c'est comme ça que Dieu instruit les gens par des songes. Et puis verset 19, Dieu parle d'une autre manière. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Il dit, voilà, Dieu parle par des songes et Dieu parle par la souffrance. Alors, Dieu peut parler par les songes et Dieu peut parler par la souffrance. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux, en l'occurrence. Mais Job avait parlé de ses rêves. Il a dit, quand je suis sur ma couche, j'ai des rêves épouvantables. Mais c'était des cauchemars et c'était surtout provoqué par Satan, qui le tourmentait même dans son sommeil. Ses songes n'ont été en rien ceux que Dieu lui a envoyés pour l'instruire, parce qu'il aurait écouté si Dieu lui avait parlé. Et donc en disant, tu vois, Dieu parle par des songes, mais tes songes, tu ne les as pas observés. Job pouvait répondre, écoutez, mes songes n'étaient pas des songes de Dieu, c'était des cauchemars. Là, il y a un problème. Dieu parle par la souffrance. Job, écoute un peu ton corps, ta souffrance, repens-toi, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Dieu te dit de te repentir et il te parle par tes souffrances. Seulement, les souffrances n'étaient pas dues à des péchés. Nous le savons. Job ne le savait pas. Il savait que ce n'était pas à cause de son péché, mais il ne savait pas pourquoi il souffrait. Et bien sûr, Élieu disait, tes souffrances, c'est à cause de ton péché. Dieu parle par les douleurs. Alors, il va plus loin et il dit des choses qu'on trouve absolument sublimes, nous qui les regardons, de la base de la Nouvelle Alliance. Par exemple, il dit alors verset 22, chapitre 33, il dit, cet homme qui est éprouvé, son âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort. C'est le cas de Job. Tu souffres, tu n'as même plus envie de manger et tu vas vers la mort. Mais verset 23, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Regardez bien. « Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Dieu lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. » Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. » Et tout ça. Il fait tout un scénario, vous voyez. Il dit, voilà, un homme qui est éprouvé par Dieu, il est presque à la mort. Et Dieu trouve un ange, intercesseur, un messager qui va intercéder. Et Dieu va dire, « Bon, eh bien... je lui pardonne. » Parce que l'ange intercesseur va donner des conseils à cet homme qui souffre. Voyez verset 23. Qu'est-ce qu'il fait l'ange intercesseur? Il annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Cet homme enfin écoute les instructions, il se repent de son péché et Dieu lui rend la santé et la vie. Alors, il est vrai que Job avait demandé un médiateur. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un entre moi et Dieu qui puisse être un médiateur? Et Élieu, il a écouté. Il dit, oui, il y a un ange intercesseur. Alors, quel que fait le médiateur pour nous en Jésus-Christ? Il a versé son sang pour nous sauver, n'est-ce pas? Une vie innocente a été versée pour notre culpabilité. Là, il ne s'agit pas d'un médiateur qui verse son sang. Il s'agit d'un messager qui dit à l'homme de bons conseils qu'il va suivre. L'homme écoute les bons conseils, il confesse son péché et Dieu lui redonne sa santé. Voilà ce qu'il dit. Donc, Élie, en fait, cet ange intercesseur, l'un d'entre les mille, Élie lui montre, c'est moi ton ange, c'est moi le messager, c'est moi qui te donne de bons conseils. Et si tu les suis, et si tu confesses ton péché, Dieu te remettra sur pied, tu iras bien. Verset 31, il le prouve après avoir expliqué tout ça, il dit, sois attentif Job, écoute-moi, tais-toi. Et je parlerai, si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Je voudrais te donner raison. Hein? Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Donc, il ne parle pas de Jésus-Christ, il ne parle pas du Messie, il ne parle pas de quelqu'un de divin, il parle de lui-même, un messager, un intercesseur qui donne de bons conseils, qui aide Job à confesser son péché afin que Dieu le rétablisse dans sa bonne santé et que Dieu lui redonne la plénitude qu'il avait avant. Alors, ce qui nous donne un peu de la confusion quand on lit superficiellement, il parle en ange intercesseur, on pense tout de suite, médiateur, intercesseur, Dieu a trouvé quelqu'un, il a trouvé Jésus-Christ et il nous a sauvés et nous disons, j'ai péché, mais je ne suis pas puni comme je le méritais parce que Dieu m'a fait grâce, n'est-ce pas? Donc nous, on va lire tout ça dans le passage, on va dire c'est merveilleux, mais dans le contexte, lui, il ne parle pas d'un médiateur entre Dieu et les hommes, il parle de bons conseils que lui, inspiré par Dieu, va pouvoir donner à Job pour que Job puisse enfin confesser ce péché. C'est le but, hein, depuis le début, confesse tes péchés. Il reste sur la même thèse que les trois amis. Donc, son intervention n'est pas vraiment une aide pour Job, c'est plutôt une flèche d'accusation. Et il montre un certain mépris, et pour Job, et pour sa souffrance, mais le tout caché sous un vernis de spiritualité et de sagesse. Et pourtant, Élie a raison sur un point. Il faut quand même lui laisser ce point. Dieu, le Créateur, n'est pas obligé de répondre à nos questions. Et ça, c'est vrai. Il est tout-puissant. Nous devons le respecter absolument, peu importe ce qu'il permet dans nos vies. Il sait ce qu'il fait. Bon. Après six chapitres de monologue, Dieu décide que l'épreuve a assez duré et il décide d'intervenir. Et là, il va donner la vraie réponse, chapitre 38 à 41. Et nous nous reposons la question, quel était le but de l'épreuve de Job? Quel était l'objectif? L'objectif de l'épreuve n'était pas de montrer à Job ce qui n'allait pas dans sa vie. Dieu n'a jamais dit à Lucifer, tu vois, j'ai un serviteur, mais il y a des problèmes, alors tu peux lui taper dessus jusqu'à ce qu'il voit ce qui ne va pas dans sa vie et l'amener à la repentance et moi je serai content et toi tu seras content parce que tu as pu taper sur quelqu'un, te faire plaisir, et Job, il sera content à la fin aussi. Ce n'était pas ça du tout. C'était, voilà un homme qui est absolument intègre, je te permets de le frapper et tu verras, il me restera fidèle. C'est ça l'enjeu de l'épreuve. Donc, Dieu veut montrer à Satan ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un qui est engagé à le servir. Dieu veut lui montrer que la grâce que Dieu envoie envers Job dans son être intérieur est tellement puissante qu'il peut lui permettre de subir la plus terrible épreuve et d'en sortir dans l'adoration de Dieu, sans l'avoir jamais renié. Ça, c'est le but de l'épreuve. Alors, quand Dieu intervient, chapitre 38, verset 1, l'Éternel répondit à Job, alors regardez bien maintenant cette phrase, c'est très important. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Alors, il dit, qui est celui? Donc, il parle d'un homme en particulier. Il y a cinq hommes qui ont parlé. Job, les trois amis et Élie. Job a parlé. Dieu dit, qui est celui qui obscure mes desseins par les discours sans intelligence? Dieu vise qui ici? Pour moi, Dieu vise Élie. Élie, c'est celui qui a par les sens d'intelligence qui a obscurci les pensées, les desseins de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu avait dit pour les trois amis, il leur a dit, qui sont ceux qui ont obscurci mes desseins? Pluriel. Deuxième chose, c'est pas Job, parce que si c'était Job, vous ne dites pas à quelqu'un, je vais pas dire à ma femme, quelle est celle qui a fait la cuisine, si je sais que c'est elle qui a fait la cuisine. Je vais dire, tu as fait la cuisine, ou tu as obscurci mes desseins avec un discours sans intelligence. On ne va pas dire à quelqu'un directement, alors que c'est lui, qui est celui qui a fait ça. Et troisièmement, le dernier à parler, c'est Élu. Donc, quand Dieu prend la parole, il désigne obligatoirement celui qui a parlé jusque-là, le dernier là. Et donc, il fait prier Job pour ses trois amis, parce que ça, c'était les trois amis. Ce type est arrivé de nulle part. Il est arrivé, personne ne le connaissait comme les quatre hommes se connaissaient. Mais Dieu dit de lui, il a obscurci mes desseins par des discours sans intelligence. C'est-à-dire, en disant à Job, tu as péché, confesse-le, je suis là pour te guider, je suis le messager, écoute mes conseils et tu verras, Dieu te guérira. Lui ne comprenait pas ce qu'il disait de toute façon. Et Dieu dit, il parle. Mais c'est des discours sans intelligence. Il ne sait pas ce qui se passe. Il pense savoir, mais il n'en sait rien. Bon. Dieu dit, bon, Élu, c'est bon. Mais le message de Dieu, alors il va parler de la création. Et alors on a tendance à dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la discussion? Le Seigneur, on dirait qu'il n'a pas assisté et on lui demande de faire une conférence sur la création. Il arrive, on a une conférence, il ne sait même pas ce que les gens ont discuté. Il ne répond même pas à leurs questions, il n'entre pas dans le débat, il change de sujet. Et de quoi parle-t-il? Il parle de la création spéciale de l'univers par lui-même. Et il parle des soins qu'il donne à cet univers à chaque instant. Dans son discours, Dieu exalte son propre pouvoir. Dieu parle de sa sagesse, de ses desseins, et il parle de son amour. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur le sujet de la création et de sa toute-puissance? Pourquoi Dieu parle-t-il de l'univers? C'est parce que l'homme tourne autour de lui-même. Nous sommes le centre de notre propre univers, n'est-ce pas? Je suis le centre du monde. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais il faut quand même dire, depuis qu'ils existent, on ne peut pratiquement rien faire dans la vie pour certains sans prendre une photo et l'envoyer au monde entier. J'ai des amis, je ne peux pas m'asseoir en restaurant avec eux sans leur montrer mon plat, ma salade landaise ou je ne sais quoi, et qu'ils prennent une photo, qu'ils le mettent sur leur Facebook pour qu'ils voient que j'étais avec eux dans ce restaurant et j'ai mangé un truc super. Et tout ce que... on va prendre un selfie, il n'y a rien contre. Mais finalement, les gens qui s'y donnent sans discernement se comportent comme s'ils étaient le centre de leur univers et comme si la planète entière veut savoir ce que j'ai fait cet après-midi. Il faut que je leur envoie des photos. L'homme tourne autour de lui-même. C'est un christianisme personnel. C'est une image de soi. C'est des relations interpersonnelles. C'est qu'est-ce que Jésus peut faire pour répondre à mes besoins? Mais Dieu dit, ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, excuse-moi, c'est pas toi et ton confort. L'essentiel, c'est ton Créateur et son dessein. C'est le grand projet de Dieu, c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas notre besoin personnel ressenti à l'instant. Job et ses amis ont beaucoup parlé de Dieu et de sa création. Si vous lisez tout le livre, vous allez voir, ils en parlent sans arrêt. Mais ils n'ont pas appliqué la sagesse et l'intelligence et le dessein de Dieu à la situation de Job. Ils ont pris des exemples de la nature pour illustrer leurs propos, mais ils n'ont pas réfléchi que le Créateur de la nature, il a un dessein et il doit savoir ce qu'il fait. Ça ne leur a pas croisé l'esprit. Dieu n'est pas le centre de leur réflexion, parce qu'ils discutent de la culpabilité de Job ou de son innocence. et accessoirement de ses souffrances. Et tout est autour de est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent. Il ne va pas, ça ne va pas plus loin, il ne pense pas à Dieu. Mais la doctrine de la création par Dieu, que Dieu a créé cette terre, lui-même, c'est le fondement de la doctrine du salut. Qui est Jésus-Christ? Est-ce uniquement le Fils de Dieu qui est venu sur la croix du calvaire? Il est cela, bien sûr, mais il est aussi, en Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, Colossiens 1, 16. Jésus a tout créé, tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui et tout a été créé en lui. Il est le Créateur. Voici l'évangile éternel, Apocalypse 14, 6 et 7. Voulez-vous connaître l'évangile qui a traversé tous les siècles? Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle du Dieu Créateur. On adore le Dieu Créateur. La foi en une création spéciale de Dieu est fondamentale pour le salut. Le grand chapitre sur la foi qui sauve. Par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Scientifiquement, c'est absolument tout à fait démontré. Tout ce qu'on voit est composé d'atomes. Et les atomes, on ne peut pas les voir. La lumière, la matière et l'énergie ont démarré tous en même temps. C'est Einstein qui l'a montré par la théorie de relativité générale. Il y a un lien entre l'énergie, la matière et la vitesse de la lumière dans la formule EMC au carré. Et donc, tout a démarré en même temps. Ce n'était pas un Big Bang, une explosion. C'était une création ordonnée. C'est-à-dire de rien, du néant, là où il n'y avait ni matière, ni énergie, ni lumière, ni rien, Dieu a fait jaillir à la fois le tout par création spéciale. Et il maintient le tout aujourd'hui par sa puissance et sa providence. Donc, tout ce qu'on voit a été fait à partir de choses invisibles. Hébreux 11, verset 3. Si nous prétendons être sauvés par un Dieu qui n'a pas créé l'univers par sa puissance, nous ne sommes pas sauvés par le Dieu de la Bible. C'est un autre Dieu. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu créateur. La doctrine de la création, encore une fois, pourquoi Dieu passe-t-il tous ses chapitres à parler de la création et de lui en tant que créateur? La doctrine de la création est essentielle pour évangéliser, pour le travail missionnaire. Quel est le livre qui a été écrit exprès pour amener les gens à croire en Jésus-Christ? Il y a un évangile qui dit, but, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la foi en son nom. Est-ce que vous connaissez le nom de cet évangile? Jean. Comment démarre l'évangile de Jean? Au commencement était la parole était Dieu, avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est créatrice, Dieu s'est exprimé dans la personne de son Fils, et son Fils a créé l'univers entier. Tout ce qui est créé a été créé par la parole, par Jésus-Christ. Donc, les premiers versets, c'est Jésus-Christ est le Créateur, et la fin, c'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et par son nom, vous avez la vie éternelle. Vous voyez à quel point la création est essentielle à tout travail missionnaire. Parce que Jean dit, cet évangile-là est fait exprès pour que vous puissiez savoir qui est Jésus-Christ et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Il faut commencer par le début, Jésus-Christ est le Créateur. Ce n'est pas venu par le procédé de l'évolution, c'est venu par une création spéciale de Dieu. L'Évangile, dans ce cadre-là, rapporte les miracles de Jésus pour montrer son pouvoir sur la création. Et c'est surtout en Jean qu'on trouve l'eau changée en vin. Jésus contrôle les substances dans la matière. Il a calmé la tempête. Il contrôle la météo. Il contrôle l'atmosphère. Il a marché sur l'eau. Il a le contrôle de toutes ces choses-là. Quand Paul s'adresse à des païens, à Athènes, qui ne connaissaient rien de la Bible, qui ne connaissaient rien de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils ne croyaient pas non plus, ces gens-là, en un Dieu créateur. Ils ne croyaient pas, ils croyaient à l'évolution, déjà à l'époque. Paul a toujours commencé en indiquant que le monde était une création spéciale et que nous aurons à rendre des comptes à notre Créateur. Et si vous voulez regarder, en Acte 14, il parle, je crois que c'est à Lystre. Ils sont à Lystre. Il y a un homme important. Dieu donne à Barnabas et Paul de pouvoir le guérir. C'est magnifique. Le prêtre de Jupiter sort de la ville. Il dit, mais alors, ça y est, les dieux sont venus nous rendre visite. Il y a Jupiter et Mercure. Et on va faire un sacrifice et faire la fête et faire un culte en l'honneur de nos dieux qui sont venus nous rendre visite. C'est un jour spécial pour lui. Hein? Paul et Barnabas ont dit, non, on n'est pas des dieux. Regardez verset 15. Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, à l'idolâtrie, pour vous tourner, regardez maintenant, vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ils n'ont pas annoncé Jésus-Christ sur la croix du calvaire, pas encore. Il fallait commencer par le commencement. Arrêtez les idoles et croyez enfin en un vrai Dieu créateur qui s'occupe de vous et qui vous fait du bien tout au long de l'année. C'est ce Dieu créateur unique que vous devez adorer et pas des idoles. Il dit ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis en acte 17, vous connaissez à Athènes, il dit Dieu a créé toutes choses et il a établi un homme par lequel il va juger le monde. Il a donné la preuve en le ressuscitant des morts. Donc quel est le problème de l'être humain? Bien sûr, c'est le péché. Mais le problème, c'est qu'il a renié un créateur divin. L'homme dit, il n'y a pas de créateur divin. Regardons en Romains chapitre 1. Le problème de la communauté LGBTQ, etc., le problème de cette communauté est le même que le problème de la communauté qui est opposée à ça. La communauté humaine a un seul problème. Et qu'est-ce qu'on voit? Chapitre 1, verset 20 de Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On a une preuve que Dieu existe par la création. Ils, les hommes, sont donc inexcusables, verset 21, car ayant connu Dieu, c'est-à-dire ayant compris qu'il y a un créateur, en voyant la création, les hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Voilà notre double péché à nous les êtres humains. On a la preuve qu'il y a une intelligence supérieure qui est à l'origine de tout. Nous ne le glorifions pas, nous ne le remercions pas. Et quel est le résultat? Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On a perdu le nord, on a perdu la sagesse et on s'est égaré dans les ténèbres. On a un raisonnement, mais il est faux. Et la racine, c'est de ne pas reconnaître un Dieu créateur et tout-puissant, de ne pas le reconnaître, de ne pas le glorifier, de ne pas le remercier. à partir de là, c'est la pente raide. Après, c'est les idoles, etc., etc. Ça, c'est la racine du problème. Nous devons d'abord nous rendre compte qu'il y a un Dieu créateur. Et comme ça, on peut comprendre la signification de notre péché contre lui et on peut comprendre le salut qu'il nous offre. Si Dieu est mon créateur, c'est la clé de ma communion avec lui et c'est la clé d'une paix entre les hommes, tous créés par Dieu. Christ a payé le prix de notre péché parce que Dieu veut tout réconcilier avec lui-même. On l'a lu ce matin. Par le sang de sa croix. Le Dieu qui a créé toutes choses a fait un plan selon lequel les Juifs et les païens forment un seul corps en Jésus-Christ. Il veut réunir toutes choses en lui. Si Dieu se borne à parler de la création, est-ce que c'est pour dire c'est pas la peine d'étudier, écoutez, c'est pas la peine d'étudier la science parce que j'ai créé, voilà, ça c'est la réponse à votre question, ne cherchez pas plus loin. Non, Dieu dit, j'ai tout créé et étudiez ce que j'ai fait et vous allez admirer ma science et vous allez m'adorer pour mon intelligence et moi je vous fais bénéficier de mon génie, je suis Dieu, je suis le créateur, allez-y, étudiez la création. La plupart des scientifiques des siècles passés croyaient profondément dans l'existence d'un Dieu créateur. Quand ils découvraient une loi physique, scientifique ou botanique, ils disaient, ça c'est une loi mise en place par le créateur, c'est une loi qui va marcher chaque fois. Parce que le créateur est intelligent. Quand on a abandonné un Dieu créateur qui réfléchit, qui fait les choses bien, on est arrivé à l'idée, tout évolue par le hasard, on découvre quelque chose, on n'est jamais sûr que ça va rester comme ça ou si ça va évoluer. Ça a enlevé tout le fondement de la recherche. Et on tourne à droite et à gauche, puisqu'on ne croit pas au créateur. Dans son discours, Dieu parle de 12 animaux distincts. Il parle du lion, du cheval, des oiseaux de proie, des charognards, des chèvres sauvages, de la biche, de l'âne sauvage, du paon, de l'autruche, de l'épervier et de la sauterelle. Il ne faut pas l'oublier non plus. Dieu montre que s'il s'intéresse tant aux animaux, il n'a pas oublié Job pendant son épreuve, comme Job le supposait. Jésus a dit la même chose. Il a dit, ne vous inquiétez pas, vous valez beaucoup plus que les passereaux. Je connais les cheveux sur votre tête. Je vois un oiseau qui tombe, ne vous en faites pas. Je vous ai dans le viseur, je sais qui vous êtes, je m'intéresse à vous. Il n'y a rien qui vous arrive que j'ignore. Dieu termine son discours en parlant du Béhémoth et du Léviathan. Vous avez entendu parler de ces, dans certaines versions. On a dit, bon, on va mettre crocodile et hippopotame. Mais le crocodile et l'hippopotame ne le font pas. Ça ne correspond en rien à la description que Dieu en fait. En fait, le dragon, c'est pas un animal mythologique. Partout dans le monde, on parle de dragons. Depuis les temps très anciens, on a parlé de dragons. Et Dieu donne une description très détaillée du dragon et du Léviathan. Ils ont existé. Et le Créateur a dû laisser s'éteindre ces animaux après le déluge, tout comme les dinosaures qui existaient avant le déluge. On trouve dans les fossiles de dinosaures et dans les autres dinosaures, on trouve de l'hémoglobine dans les cellules des os des dinosaures. L'hémoglobine qui est encore liquide. Ces dinosaures ne peuvent pas dater de 300 millions d'années. Selon la chronologie biblique, ils peuvent dater de 4500 ans en arrière, 5000 ans en arrière. Alors, bien sûr, en dehors de... Enfin, quand on sait ce qu'on enseigne à l'école, on dit « c'est pas possible ». Là, le pasteur, le pauvre, il délire. C'était pas mal jusqu'à présent, mais là, il commence à sortir les trucs... Non, mais les trouvailles, il ne faut pas se baser sur ce qu'on trouve. Et Et alors, certains chercheurs ont dit, soit on n'a rien compris à l'hémoglobine, soit on n'a rien compris à notre système de datation. Mais il y a un problème là. Et donc, ces animaux, le dragon, le dinosaure, le léviathan, un animal énorme qui est dans la mer, qui crachait du feu, qui, voilà, il représente la toute-puissance de Dieu et inspiré la crainte. Mais Dieu a promis de les vaincre. Et en Apocalypse, Satan est présenté sous le nom du Léviathan, Ésaïe 27, verset 1, et du dragon, en Apocalypse 12. Ces deux animaux symbolisent le diable, le plus puissant des anges, qui est contre Dieu, quelqu'un qui est terrifiant, qui inspire la crainte, mais Dieu l'a vaincu en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des résultats de cette expérience sur les participants? Dieu a dit à Lucifer, voilà, j'ai un serviteur intègre. Vous savez ce qu'a répondu Lucifer. Vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre Job. Vous connaissez la discussion entre Job et ses trois amis. Vous connaissez l'impétueux Élihu et son discours. Vous connaissez maintenant le monologue de Dieu par rapport à lui et le Créateur. Job, il écoute tout le discours de Dieu. Dieu qui annonce sa victoire sur Satan, qui était à l'origine de toute l'affaire. Job reconnaît humblement. On peut revenir maintenant à Job 42 et vous dites, ah, s'il arrive à 42, c'est qu'on n'est pas très loin de la fin de ce message. Et vous avez raison. Job 42. Et il écoute la fin. Et il répond, verset 2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il recite Dieu. Quand vous avez ces tirés, ça change de celui qui parle. Il répète cette phrase que Dieu a dit. Oui, Job le prend pour lui. Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu, il avait dit à Job avant, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et Job recite cette phrase que Dieu lui a dite. Et Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Quel est le péché de Job? Du moins le péché qu'il confesse, du moins ce qu'il dit. Il dit, j'ai parlé de choses que je ne comprends pas. Ce n'est pas qu'il avait faux, mais il ne comprenait pas. Et il en a parlé. Et lui, il s'en repent totalement. Alors que les autres gars, ils avaient tout faux. Il n'y a pas de repentance de leur part. Oui, Job admet avoir tenu des discours sans intelligence. Il avait posé des questions irrecevables. Dieu dit, je n'ai pas à répondre à cette question. Il avait parlé de merveilles qui le dépassaient. Job était innocent de tout péché connu, c'est vrai, mais devant un Dieu infini et saint, sa justice est nulle. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà un homme avec un cœur tendre. Vous ne voyez pas les trois autres dire la même chose que Job, du moins pas dans ce récit. Les amis de Job, eh bien, doivent faire des sacrifices à Dieu pour se faire pardonner de leur folie. Ils n'acceptaient pas le fait que leur confort et leur prospérité, les trois gars, ils se portaient bien. Ils n'acceptaient pas le fait que c'était des dons de Dieu, que c'était une grâce qu'ils n'avaient jamais méritée. Ils ne comprenaient pas que leur plénitude, ce n'était pas une récompense. Ils pensaient, nous on va bien parce qu'on est bon. Ils ne comprenaient pas, nous on va bien parce que Dieu nous fait une grâce incroyable. Ils pensaient qu'ils y étaient pour quelque chose. À cause de cette folie qu'ils avaient dans la tête, ils ont accusé Job d'avoir péché. Et en l'accusant, ils ont rendu ses souffrances beaucoup plus grandes qu'elles étaient déjà. Au lieu de le consoler comme il l'aurait mérité. Dieu exige donc des sacrifices de la part de ses trois amis. Vous remarquez ça. On fait un sacrifice quand on a péché. Est-ce que Dieu a demandé à Job de faire un sacrifice? Non. Job se repent. Il a un cœur très tendre, mais Dieu ne l'accuse d'aucun péché, même là. Par contre, les trois amis, ils ont intérêt à faire un sacrifice parce qu'ils ont vraiment péché. Donc, Dieu dit à Job, je veux que tu pries, que tu intercèdes auprès de moi pour que je pardonne à tes trois amis leurs péchés. Et dit aux trois amis pour enfoncer le clou, je vais demander à mon serviteur Job de prier pour vous. Et peut-être là, je vous pardonnerai. Mais si, mais je vous pardonnerai parce que mon serviteur a prié pour vous. Comprenez? Ça, c'est magnifique. Mon serviteur priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul, verset 8, que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ils avaient l'habitude de faire des sacrifices. Les trois gars sont partis, ils ont fait des sacrifices, comme l'Éternel leur avait dit, et Dieu a écouté la prière de Job. Donc, Job est rétabli quand il a intercédé pour ses amis qui l'ont fait tant souffrir. C'est la méthode divine. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En ça, l'Éternel montre à ses trois amis, vous avez parlé contre moi, vous avez dit des folies à mon sujet, mais vous avez aussi péché contre mon serviteur. Moi, je vous pardonne sur la base d'un sacrifice de sang. Mais mon serviteur Job, je sais qu'il vous pardonnera, il priera pour vous. Dieu avait confiance qu'après tant de blessures, Job prierait pour ses amis et demanderait à Dieu de leur pardonner, et lui-même leur accorderait son pardon. Ça, c'est un très bel épisode dans cette épreuve. On voit, et il n'est pas encore guéri, il fait ça. Et donc, quand il a fait ça, la boucle est bouclée, Dieu lui donne donc deux fois plus qu'avant matériellement, peut-être le double de vie qu'il avait vécu jusque-là, seulement le même nombre d'enfants qu'avant. Parce que les 10 enfants qui ont péri sont toujours vivants quelque part. Dieu est le Dieu des vivants. Donc il a donné 10 autres, ça fait 20 au total. Mais les animaux qui ont été massacrés, eh bien, Dieu lui a redonné le double. Et donc il avait deux fois plus qu'avant. Tout le récit se termine par un afflux d'amis. C'est impressionnant. Tous les amis qu'avait Job, où est-ce qu'ils étaient dans son épreuve, hein? Mais quand tout va bien, tout le monde est là, hein? Et là, nous le voyons, verset 11, les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Eh bien oui, un repas gratuit, on ne crache pas dessus, hein? Job pouvait se le payer, ça va. Ils viennent. Et de quoi parle-t-il pendant ce magnifique repas, verset 11? Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Un késita, c'était un morceau d'argent ou d'or servant de monnaie à cette époque-là. Alors, est-ce que c'était pour faire un financement participatif et remplir la cagnotte de Job? Je ne sais pas, c'était une manière pour eux de... Peut-être c'était, j'aurais pu te rendre visite, je ne suis pas venu, mais enfin je te donne ça et ça, et est-ce que ça va? C'est un peu ce qu'on ferait, hein? On n'est pas allé les voir à l'hôpital, on vient chez eux après avec un peu de chocolat, voilà. Sacrifice de culpabilité. Oh, j'aime le chocolat, viens dans mes bras, ça va, c'est pas grave. Tu m'as abandonné, mais tu reviens, ça va. Nous ne savons pas. En tous les cas, c'était une manière pour eux de vraiment revenir autour de Job et essayer de participer avec lui un peu après coup à sa souffrance. Moi, je pense que Dieu a amené tout ce monde aussi pour que Job puisse avoir l'opportunité de témoigner de son expérience. de toutes les leçons salutaires. Vous imaginez que Job raconte le livre de Job juste après les faits? Et lui seul pouvait décrire la douleur, la honte, l'horreur. Lui seul pouvait décrire, je ne pense pas qu'il va parler mal de ses amis, mais il va revenir sur le sujet et dire que Dieu ne l'avait pas condamné. Il avait été intègre et que le Seigneur a eu miséricorde et que Dieu lui a parlé de sa création. Il comprend, Dieu est le centre de l'univers, ce n'est pas moi, c'est lui. Aujourd'hui, le message de la création doit accompagner celui de la rédemption. C'est simple. Comment le péché a-t-il entré dans le monde? Par Adam et Ève. Adam et Ève ont-ils vraiment existé? Oui, dans le livre de la Genèse. Ah non, mais tu ne vas pas quand même faire le coup de la Genèse. La pomme, le serpent, le jardin, c'est bon, on l'a déjà donné, hein? On va le traiter comme un conte de fées. Seulement, l'apôtre Paul ne le traite pas comme un conte de fées. Il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a atteint tous les hommes. Dites à ses amis, alors la mort, c'est aussi un conte de fées, non? Ah non, c'est sérieux, la mort. Eh bien, la mort vient de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est la seule explication que nous avons qui tient la route. Il n'y a rien d'autre. Vous savez ce que certains évangéliques, je donne ça gratuitement, hein. Vous savez ce que certains évangéliques pensent aujourd'hui? Ils pensent que l'homme, l'homo sapiens sapiens, ça c'est vous et moi, hein, on a évolué donc à partir de, en arrivé au stade élevé de Cro-Magnon et de Néandertal, et quelque part entre ces deux-là, il y a eu, ils disent, c'est la théorie, ils disent il y a peut-être 400 ou 500 couples, peut-être 2000 couples, on ne sait pas. Mais c'était des êtres qui avaient évolué, donc c'était des humains, mais voilà, ça pouvait parler et tout, mais il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait pas de contact avec Dieu. Donc Dieu a choisi un de ces couples-là, et il leur a donné, ça c'est magique, il a donné un esprit. Et tout à coup, le nouveau Adam et Ève qu'il a choisi, l'idée de Dieu leur vient, et ils disent, ah, il y a Dieu et il y a nous. Et nous sommes la création de Dieu. Et donc, les autres sont morts parce que c'était des êtres inférieurs. Et Adam et Ève ont beaucoup procréé. Et donc, il n'y a que leurs enfants qui ont rempli la terre. Je vous garantis, il y a des évangéliques qui croient à l'évangile comme vous et moi, qui pensent que c'est comme ça que ça s'est passé, pour marier la théorie de l'évolution avec la Bible. Sans dire que pendant des millions d'années, il y avait des millions d'êtres qui sont morts dans le processus d'évolution. Et puis à un moment donné, Dieu dit avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est merveilleux, c'est beau, c'est parfait. Soit l'évolution est vraie et l'évangile n'est pas vrai, soit la création spéciale par Dieu est vraie et l'évangile est vrai aussi. La plupart des nations ont abandonné Dieu déjà du temps de Job. On a abandonné le créationnisme par un seul Dieu et on a adhéré à un humanisme, l'homme est Dieu, panthéiste, tout est Dieu, polythéiste, il y a plusieurs dieux, et évolutionniste, tout a évolué par hasard. Cet évolutionnisme est imposé dans les sciences, dans les écoles, dans les médias, dans la culture. L'évolution a pénétré l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme, le shintoïsme et l'animisme. Même dans les religions monothéistes, l'évolution a été acceptée par ses principaux dirigeants. L'Église catholique romaine, il y a quelques dizaines d'années en arrière, a accepté l'idée de l'évolution comme un dogme. Le monde évangélique est en train de tomber en plein dedans également. Et en 2010, j'ai lu un article, enfin c'était tout un magazine, par un groupe d'églises évangéliques des plus conservatrices qui soient en France, qui disait « Nous sommes tellement heureux que la grande majorité des scientifiques européens sont évolutionnistes. » Et c'est dommage que tant de scientifiques américains soient créationnistes, mais ils ont aussi un agenda politique. Ça, c'est dans l'éditorial. Et ils ont développé toutes sortes d'idées d'évolution. Le problème, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. on ne peut pas à la fois croire qu'Adam et Ève, c'est un mythe, et puis lire Jésus qui a dit, Dieu a créé un seul homme et une seule femme, les deux sont devenus une seule chair, et Jésus parle comme s'il croyait ça. Soit Jésus a raison dans les évangiles, et la Genèse est littérale, soit Jésus s'est trompé, ou il savait, mais ne voulait pas secouer les gens, donc il a un peu menti, et que c'est tout est symbolique. Le Dieu créateur et tout-puissant se révèle comme étant infiniment intelligent et intéressé par toute sa création. Il s'intéresse donc à chacun de nous et suit attentivement nos parcours. Il permet et il dose nos circonstances et nos épreuves. Puisqu'il peut tout, Dieu peut façonner nos destins de manière à nous faire du bien et se glorifier, de manière à attirer d'autres à lui par notre réaction, écoutez bien, dans l'épreuve. Très souvent, un chrétien qui passe par une terrible épreuve, ça suscite l'intérêt des inconvertis, dit « Comment tu y arrives? Comment tu peux vivre ce que tu vis et encore être heureux ?»« Ah, mais Jésus, ah ben alors j'aimerais connaître Jésus. » Si vous disiez, est-ce que vous aimeriez connaître Jésus? Oh non, ça ne m'intéresse pas. Mais voir ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, ça je voudrais avoir, je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce que je peux avoir ça? Ah, ça c'est Jésus, mes amis. C'est là où notre témoignage est le plus crédible et le plus fort. C'est un Dieu de toute grâce et de toute consolation. Job, finalement, n'avait pas besoin de savoir pourquoi il souffrait. Et nous non plus. Dans sa grâce, Dieu peut l'expliquer, il peut l'expliquer, mais il n'est pas tenu de le faire. Le fait que Dieu nous l'ait expliqué dans Job devrait nous suffire, voyez. Il n'a pas besoin d'écrire un livre pour chacun. Il dit, lisez Job, vous allez voir, c'est une piste. Ça peut arriver à cause de ça. Parfois, c'est un châtiment pour nos péchés, un châtiment pédagogique. Mais quand Dieu nous châtie pour nos péchés, il nous montre le péché pour lequel il nous châtie. Dieu n'est pas comme certains parents. Pourquoi tu me frappes, papa? Je n'ai pas fait la bêtise. Alors, c'est pour les bêtises que tu as fait avant que je ne t'ai jamais attrapé. Bon, d'accord. Non, l'Esprit nous montre ce qu'il faut mettre en règle parce que le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans le péché. Il nous informe quand on a du péché. Mais si, comme Job, nous n'avons rien à nous reprocher, la souffrance doit être acceptée sereinement, comme Jésus a accepté la sienne. Jésus n'a jamais péché. Il était pourtant l'homme des douleurs et habitué à la souffrance. Et si le Fils de Dieu a tant souffert, il est tout à fait normal que nous puissions parfois souffrir sans avoir commis un péché particulier. Mais en contemplant la magnificence de ces grands actes créateurs, et je suis au dernier paragraphe, sa providence quotidienne, son merveilleux don du salut. Nous allons voir nos épreuves passagères à la lumière de l'éternité. Nos légères afflictions du moment. L'épreuve de Job, c'était quoi? Nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul redit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est dans ce contexte global d'un Dieu créateur que nous pouvons accepter, supporter et apprendre des souffrances que Dieu peut nous permettre de n'endurer. Notre Dieu et Père, bénis ta parole, bénis ses vérités à nos cœurs. Aide-nous à te regarder avec confiance. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu sais pourquoi. Et cela me suffit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.